Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour. Il n'allait pas se laisser terrasser comme ça. Quand un satané virus a anéanti le programme prévu sur les scènes du Quai d'Angers, le nouveau directeur du Centre National Dramatique a imaginé une nouvelle programmation théâtrale Corona compatible pour l'été. Dès demain, le Quai d'Angers lance ses créations. Son directeur, le comédien et metteur en scène Thomas Joly, nous raconte cette épopée masquée. Thomas Joly en ligne d'ici un quart d'heure. America, Sex in the USA, l'indispensable de Nicolas Caro ce matin est chaud, chaud, chaud. Première page, vous découvrez aujourd'hui le début du roman de Faith Again, La discrétion. La discrétion apparaître fin août chez Plon. Chers enfants de la patrie, vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h. Le journal de la culture est annoncé, même qu'il ne s'appelle pas Benoît, mais bien Damien. Bonjour Damien Cabrespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Benoît, ça vous va bien, enfin, ouais. C'est pas le vôtre. On commence avec une information qui met un peu de baume au cœur, la reprise annoncée des concerts dans la plus grande salle d'Europe, le Paris Défense Arena.
Oui, alors bon, c'est pas pour tout de suite, ça se passera dans les premiers mois de 2021, mais au milieu de toutes ces nouvelles parfois anxiogènes, j'ai quand même envie de garder un peu d'espoir. Alors voilà, on y croit, c'est le chanteur congolais Koffi Olomide qui devrait ouvrir les festivités le 13 février 2021. On attend ensuite, avec impatience évidemment, l'immense Céline Dion au mois de mars. Et puis parce qu'on a des goûts vraiment très éclectiques, on se réjouit d'avance en pensant à la déferlante Iron Maiden qui devrait nous bousculer le 11 juillet. Et tout ça, et ben vous savez quoi Pascal, ça me donnerait presque envie d'écouter un peu de hard rock. Vous êtes d'accord?
Presque.
Ouais, allez, Iron Maiden, The Trooper.
The Trooper, un 14 juillet, bien joué. Aux États-Unis, une triste nouvelle et une fin tragique pour la comédienne Naya Rivera.
Le corps de l'actrice, star de la série Glee, a été retrouvé cette nuit dans un lac californien. La comédienne de 33 ans s'est vraisemblablement noyée. Elle avait loué un bateau le 8 juillet sur lequel elle s'était embarquée avec son fils de 4 ans, qui lui a été retrouvé vivant. Alors sa disparition s'ajoute à la longue liste des destinées tragiques pour les comédiens qui ont joué dans cette série culte. Un autre acteur de Glee, Mark Selling, a mis fin à ses jours en 2018, alors qu'il attendait le rendu d'un jugement pour possession d'images pédopornographiques. Et en juillet 2013, c'est le Canadien Cory Mantis qui était mort à la suite d'une overdose. La série qui a passionné des milliers d'adolescents à travers le monde entre 2009 et 2015 semble comme frappée d'une malédiction.
Même des millions, non, d'adolescents.
Des millions.
Ah, ouais. Ouais. Aux États-Unis, toujours, un film sorti il y a 40 ans est en tête du box-office.
Oui, c'est assez étonnant et inédit, mais ce n'est pas n'importe quel film. L'Empire contre-attaque, le deuxième volet de la saga Star Wars, est ressorti vendredi dernier dans les salles américaines et c'est à nouveau un carton plein. Luke Skywalker et ses amis ont engrangé plus de 450 000 dollars de recettes ce week-end et ce succès, il s'explique notamment par les conditions de projection du film. L'Empire contre-attaque est en effet visible dans 480 drive-in à travers le pays. Alors, les drive-in, vous savez, ce sont ces cinémas en plein air, parfaits pour respecter la distanciation sociale et donc très en vogue depuis le début de la crise sanitaire. Star Wars n'est pas la seule franchise à connaître cette situation. Les Dents de la Mer, SOS Fantôme ou Jurassic Park connaissent aussi une nouvelle jeunesse dans les salles américaines. Et puis, en décalant la sortie des blockbusters estivaux, les studios hollywoodiens ont laissé le champ libre à la réédition de films anciens, mais déjà plane une menace. Hier soir, la Californie a décidé de fermer à nouveau tous ses cinémas et du coup, ben, que la force soit avec eux.
Mmh. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on peut revoir des grands classiques du cinéma. En France aussi, des projections en plein air pourrait bien rythmer notre été.
Et notamment avec un ciné-club qui va s'installer du 24 au 26 juillet prochain sur le parvis de la scène musicale à Boulogne-Billancourt, c'est en très proche banlieue parisienne. Alors au programme, trois films musicaux cultes projetés sur grand écran et qui seront précédés chacun d'un concert en live. Alors si vous aimez Mozart et la musique classique, réservez votre 25 juillet pour aller découvrir ou redécouvrir le film Amadeus de Milos Forman. Si vous êtes plutôt jazz, ce sera le lendemain, le 26, avec Ray, le biopic consacré à Ray Charles. Et si, comme moi, vous êtes fan de la chanteuse Björk, ça se passera le vendredi 24. Voilà. Voilà, on vient d'entendre le titre Gvalda que Björk chantait avec Catherine Deneuve dans le film Dancer in the Dark de Lars von Trier. Il sera donc au programme de ce ciné-club Paradiso. Alors attention, toutes les projections seront gratuites, mais la jauge étant limitée à 380 fauteuils, n'oubliez pas de réserver vos places en ligne à partir de demain. Et pour ça, rendez-vous sur le site de l'événement cinéclubparadiso.com.
Dans un autre style, sur Netflix, Damien, un documentaire assez surprenant.
Ah oui, surprenant, c'est même un ovni, un film qui s'intéresse à un astrologue, étincelant et légendaire, Walter Mercado, qui a sévi durant 4 décennies à la télévision, d'abord dans son pays d'origine, Puerto Rico, puis aux États-Unis.
Je vous souhaite toujours beaucoup de paix, mais aussi beaucoup de quoi ? D'amour.
Amor. Mucho, mucho amor, c'est le nom de ce documentaire, retrace la carrière de cette Elisabeth Tessier version latino. Alors physiquement, c'est un peu comme si Roselyne Bachelot et Michou avaient eu un enfant ensemble.
Oh, dis donc.
Mais oui, je vous assure. Regardez, au niveau des costumes, on est plutôt clairement du côté des extravagances du pianiste américain Liberace. Alors oui, c'est kitsch, c'est drôle, mais c'est aussi tragique et émouvant. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici, il faut garder un petit peu de suspense. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sa carrière et sa vie ont été assez mouvementées. Mucho Mucho Amor est sorti il y a quelques jours sur Netflix et c'est définitivement, en tout cas à mes yeux, un personnage à découvrir.
On termine en douceur avec des nouvelles du chanteur folk Sufjan Stevens dont j'ignore tout.
Alors Sufjan Stevens, oui, vous savez, alors, il avait été nommé en 2018 à l'Oscar de la meilleure chanson originale avec son titre Mystery of Love et il avait connu un succès assez phénoménal en signant la bande originale du film Call Me By Your Name, rappelez-vous. Mystery of Love, une très belle chanson et 2 ans plus tard, Sufjan Stevens s'est remis au travail. Le chanteur vient d'annoncer un nouvel album prévu pour la rentrée. 2 morceaux viennent déjà d'être dévoilés, parmi lesquels le titre America. On reste dans l'ambiance, c'est toujours aussi doux, c'est aérien, c'est vraiment très beau. Et donc je vous propose d'écouter un extrait, ça s'appelle America.
America, un nouveau titre de
Sufjan Stevens.
Comme vous dites, merci Damien Caprespin, tu me donnes ton cœur.
Ouais, d'accord. Totalement.
Non, bah non, rien, c'est le nouveau Louane, donne-moi ton cœur sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média, belle matinée à vous.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste. Où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es.
ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
Donne-moi ton cœur, le nouveau Louane sur Europe 1. Nous allons prendre la direction d'Angers dans 2 minutes. Théâtre malgré tout auquel le comédien metteur en scène Thomas Joly nous attend. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
C'est triste, une scène de théâtre vide, la faute au Covid et aux indispensables gestes barrières qui s'éternisent. À la tête duquel le Centre Dramatique National d'Angers depuis le 1er janvier dernier. Le comédien et metteur en scène Thomas Joly n'a pas pu se résoudre à attendre une éventuelle reprise en septembre. À partir de demain, le Quai lance donc sa programmation d'été, à croire que la création peut faire avec les contraintes. Bonjour Thomas Joly.
Bonjour Pascal Clark.
Merci d'être en ligne depuis Angers, surtout que j'imagine qu'aujourd'hui vous avez des tas de choses à faire, non ?
Bah, disons que je ne peux pas être avec vous parce que c'est jour de général, puisque demain c'est la première. Voilà pourquoi je ne suis pas dans vos studios ce matin.
Ah, vous faites quand même une générale, ça se fait encore ça ?
Ça se fait encore, hier soir on a aussi fait la couturière. Oui, bien sûr, la générale très importante pour les acteurs, pour tester les derniers ajustements et être prêt quand le public arrivera.
Alors, général...
On a hâte d'ailleurs.
Ouais, général, la nuit de Madame Lucienne, on va en parler. Mais d'abord, peut-être Thomas Joly, commencer par un petit retour en arrière. Nous sommes le 16 mars, le pays se confine, c'est silence plateau. Pas le choix de tout arrêter, mais j'imagine que votre frustration est immense parce que vous venez d'arriver quelques semaines avant à la tête de ce Centre Dramatique National et vous aviez prévu 2-3 bricoles quand même.
Tout à fait. À ce jour, par exemple, Pascal, j'ai davantage dirigé un théâtre vide et sans public qu'un théâtre avec public, puisque effectivement, je suis arrivé le 1er janvier, que tout allait très bien, que la saison prochaine se construisait, et tout a été effectivement bloqué, fermé dès le 16 mars. C'est tout à fait surprenant, et en même temps, passer le deuil et le désarroi qui a existé, je vais pas le nier, honnêtement, quand on comprend en fait que ce virus vient toucher ce qui fait l'ADN hein, de nos métiers d'acteurs, de metteurs en scène, et puis surtout l'ADN de ces maisons, c'est-à-dire rassembler les gens devant des œuvres. Quand on comprend ça, on se demande à quoi bon et comment faire. Et puis assez rapidement, il y a eu cette opportunité, enfin cette idée que j'ai eue de bricoler un petit bout de scène de Roméo et Juliette sur mon balcon.
Oui, alors c'est ça, on m'a dit ça, c'était plus fort que vous, hein, parce que vous êtes d'abord comédien, hein, vous êtes aussi évidemment metteur en scène, mais d'abord comédien, et il se trouve que l'appartement que vous habitez à Angers possède un balcon, alors...
Alors, pourquoi pas jouer pour mes voisins et voisines qui étaient eux-mêmes confinés chez eux et chez elles, un petit bout de la scène du balcon de Roméo et Juliette.
Oh, vous l'avez encore en tête là, vous nous faites le plaisir d'une petite réplique.
Lève-toi, belle aurore, es-tu la lune envieuse qui rougit et pâlit enfin,
c'est loin,
ça fait déjà un mois et demi. Oui, c'est déjà loin.
Et donc, depuis les fenêtres d'en face.
Bah, ce qui était très beau, c'est de voir les voisins, les voisines sortir la tête de leur fenêtre, de leur Vélux, arriver sur leur balcon, de voir les livreurs Uber s'arrêter sur leur vélo, les gens qui promenaient leurs chiens. Ça durait 10 minutes, hein, je rassure tout le monde, pour pas créer un gros rassemblement en plein milieu de ce confinement. Mais ce qui a été très beau, c'est que finalement, en fait, on a partagé un moment de réalité imaginaire. Et c'est ça qui, au fond, a été un déclic pour moi. Parce que si la culture a perduré durant ce confinement, d'ailleurs de manière heureuse, avec... les captations, les livres, enfin tout un tas de choses sur lesquelles les gens se sont, dont les gens se sont saisis. Ce qui manque surtout, c'est la culture partagée. Et c'était bien ce problème-là que je voulais résoudre, cette équation-là. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait construire, essayer de construire une saison dite Corona compatible avec mon équipe.
D'autant que voilà, vous avez entendu des phrases qui vous ont un petit peu fait mal. Tous les endroits non essentiels à la nation doivent fermer. On a entendu ça. Ça voulait dire que le théâtre n'était pas essentiel et ça. Vous n'avez pas pu l'accepter.
Et ça. Non, enfin, je comprends évidemment les raisons qui font qu'on dise ceci. Et évidemment, il n'était pas question de faire du théâtre à tout prix alors que la situation sanitaire était très tendue. Mais je crois par contre que les théâtres sont des endroits essentiels à la nation, essentiels parce que L'art, comme les maisons d'ailleurs, hein, sont des outils qui permettent de remettre un peu d'ordre à notre chaos, qui permettent le discernement, qui permettent la rencontre, et qui sont pour moi des piliers essentiels du vivre ensemble, qui est mis à mal beaucoup en ce moment, et que donc à cet endroit-là, oui, ils sont essentiels.
Et donc vous n'aviez que 4 mois devant vous, ce qui n'est pas énorme pour monter toute une programmation théâtrale. Vous allez nous raconter comment vous avez fait, Thomas Joly. Merci d'être dans Culture Média ce matin. On revient.
Avec plaisir.
À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
À partir de demain, le Quai, Centre Dramatique National d'Angers, propose donc sa programmation d'été. Corona compatible, 15 spectacles dont 6 sont des créations. Thomas Joly, on vous avait laissé au moment où vous aviez peu de temps devant vous pour imaginer et pour lancer cette programmation. Par où avez-vous commencé? Il vous fallait des troupes, ça a commencé par là?
Ouais, ça a commencé en appelant, en contactant les compagnies régionales et les équipes du territoire, puisque il y a en Pays de la Loire beaucoup de compagnies formidables qui avaient toutes, vous savez bien, les artistes ont été durement touchés, hein, les artistes et les techniciens d'ailleurs, qui avaient toutes non seulement besoin, mais surtout très envie de repartir. Sur les planches, de repartir à la rencontre des publics. Donc assez rapidement, on a trouvé dans ce vivier-là de nombreuses possibilités de création. Il y a quand même sur les 15 spectacles qui vont être proposés jusqu'au mois de septembre 10, qui sont initiés par des compagnies régionales. Et puis après, il a fallu tout remodeler. C'est-à-dire que c'est peut-être là la grande vertu de cette expérience grandeur nature, c'est qu'il a fallu repenser la communication, repenser la billetterie, repenser l'organisation, repenser les espaces. Évidemment, on va peut-être parler aussi des conditions sanitaires qui sont évidemment respectées. Donc tout ça a été assez grisant, je dois le dire, et tout est prêt. Maintenant, on n'attend plus que le public.
Il vous a fallu des décors aussi, ça prend du temps les décors de théâtre.
Alors justement, il a fallu faire avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on doit être dans une forme de théâtre d'immédiateté, un théâtre d'urgence un peu, et faire avec ce qu'il y a, retrouver, peut-être mettre de côté d'abord le répertoire un petit peu grandiloquent, moi j'ai un peu l'habitude d'ailleurs, mettre de côté les grandes fresques qui durent très longtemps avec de très grandes distributions, et peut-être se concentrer sur des répertoires plus humbles, mais pas moins exigeants et pas moins puissants ou beaux, et puis piocher dans les décors qui existent dans les stocks, les costumes qui existent dans les stocks de costumes, bref, faire avec ce qu'il y avait, vite. Vous savez, Antoine Vitesse parlait du soulier de satin et disait que pour monter le soulier de satin de Paul Claudel, il fallait faire vite et mal. Et c'est un peu ça ce qu'on a fait. On a travaillé vite et mal. Alors mal, bien sûr, ça veut dire dans une énergie comme ça du premier jet, quoi. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé, ouais.
Alors, c'est là que vous est venue l'idée de monter une pièce de l'auteur argentin Copy, La nuit de Madame Lucienne. En quoi est-ce que cette pièce colle parfaitement à la situation?
Et alors, au Quai, on a la grande chance d'avoir dans le Quai à Angers deux salles de spectacle exceptionnelles, dont l'une très grande qui fait plus de 900 places avec un immense plateau.
900 places, mais vous n'y pensez pas!
C'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit quand il est plein, mais c'est aussi un très bel endroit quand il est vide, et il est vide, absolument vide, tristement vide depuis le mois de mars. Et justement, la pièce de Copy prend place dans un théâtre vide, puisque c'est l'histoire d'une répétition. Un auteur, un machiniste et une actrice répètent la nuit dans un théâtre vide la pièce qu'ils préparent à une semaine de la première. Et dans cette nuit étrange de répétition, il y a des coups de fil étranges, il y a un cadavre dans la loge, et donc la comédie policière s'enclenche. Que va-t-il se passer? Je vais pas trop en dévoiler tout de suite, mais j'ai trouvé que c'était un bel hommage justement à la création de monter cette pièce qui montre l'envers du décor, montre comment les acteurs, les artistes, les techniciens travaillent, et puis faire revenir le public par la petite porte, c'est-à-dire par l'entrée des décors, les installer sur scène d'un point de vue qu'ils n'ont pas d'habitude.
C'est ça, vous avez tout renversé. On entend la musique, un peu de la musique de la pièce qui est signée Clément Prémartin. Alors, quelques questions Covid rapidement. Le masque est obligatoire? À combien se situe la jauge?
Alors, le masque est obligatoire, évidemment, la distance est obligatoire. La jauge, on a fait des petites jauges entre 60 et 80 places par soir. C'est pour ça que, du coup, on a un très grand nombre de représentations tout l'été. Et puis, le gradin est corona compatible aussi avec des sièges qui sont laissés entre les spectateurs. Mmh. Tout a été pensé, gel hydroalcoolique, évidemment. Et puis, marquage au sol, mais de manière ludique et joyeuse et presque même artistique, avec des petits soleils partout qui irradie dans le quai. Voilà.
Et pardon d'être vulgaire en parlant d'argent, mais ce spectacle ne sera pas rentable.
Il ne l'est pas. Il ne l'est pas, mais on a la grande chance d'être un établissement subventionné.
Subventionné, voilà. C'est le mot que je cherchais.
Exactement. Exactement. Et qu'à ce titre, moi, je remplis une mission de service public. Et ça m'importe beaucoup, cette mission-là. À Angers, avec toutes les annulations qui commençaient à tomber, on aurait été à un moment donné sept mois sans culture partagée à Angers. Et moi, pour moi, ça, c'était impossible. Donc, en tant que centre dramatique national, eh bien, on a décidé d'avancer le début de la saison et de commencer dès le 15 juillet. Et c'est grâce, effectivement, à un fonctionnement public. Mmh. Voilà.
Thomas Joly, le théâtre chevillé au cœur et au corps, il est en direct ce matin depuis le Centre Dramatique National d'Angers. On a encore pas mal de choses à se raconter. À tout de suite sur Europe 1.
À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes ensemble sur Europe 1 en direct, journée fériée, fête nat, un peu de musique ne nuit pas. On reparle au comédien metteur en scène Thomas Joly dès qu'on a entendu Bon Entendeur. Le temps est bon et non pas. Si vous ne l'avez pas dans la tête toute la journée, celle-là, alors je ne comprends rien. Thomas Joly, vous êtes toujours là depuis Angers ?
Toujours.
Je voulais revenir sur certains de vos méfaits passés. Il se trouve que le théâtre, vous l'avez découvert très tôt au lycée, c'était à Rouen. Comment ça s'est joué pour vous ? Vous aviez une révélation ?
J'ai surtout... C'est très compliqué cette question. Non, ça s'est pas venu de l'extérieur. C'est des gamins dans ma chambre avec un bouquin de Pierre Gripari qui s'appelle « Sept farces pour écoliers » que ma mère m'a offert et que j'ai monté en entier entre, je sais pas, mes 6 et 8 ans avec mes amis. Et c'est là que ça a commencé. Et puis après, une compagnie d'enfants. Donc on jouait des spectacles quand j'étais enfant. On partait en tournée, etc. Donc assez rapidement, en fait, c'est comme si c'était pas seulement un loisir, mais ça devenait presque un métier. Et puis, j'ai été mordu et j'ai jamais plus voulu faire autre chose. D'ailleurs, je ne sais rien faire d'autre que du théâtre.
C'est déjà pas mal. Et ça vous a changé? Ça vous a donné confiance? Quel a été l'effet du théâtre sur vous?
Alors, moi, je trouve que c'est un art qui m'a permis de devenir... de devenir une personne. Alors, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je trouve que c'est un outil qui permet de construire son regard, de construire son esprit critique, de construire sa pensée, d'avoir des outils pour être au monde, tout simplement. Et après, bien sûr, tous les outils d'articulation, de respiration, d'aisance, mais au-delà de ça, c'est vraiment de faire de moi une personne. C'est étrange de le dire comme ça, et je dis pas que les gens qui ne font pas de théâtre sont pas des personnes, bien sûr, mais il y a quelque chose de cet ordre, quand même.
Vous avez un grand fait d'armes, Thomas Joly. C'était il y a 10 ans déjà. Vous montiez le Henri VI de Shakespeare, un spectacle qui durait 18 heures. Hein, et si on ajoutait la suite Richard III, on arrivait à 24 heures. 24 heures de théâtre non-stop. Qu'avez-vous ressorti de cette expérience-là?
Bah, c'est la plus belle expérience qui m'a été donnée de construire et de vivre parce qu'en fait, nous cassions les limites de la représentation. Quand on va voir un spectacle qui dure 1h10, 1h30, on est dans un rapport qui reste un rapport de consommation, entre guillemets. À partir du moment où on commence à passer plus d'une heure et demie, 2h, 3h, on passe un temps de vie partagé, c'est-à-dire que les gens commencent à se connaître dans le gradin. Il y a même des gens qui sont toujours amis depuis. Je ne sais pas s'il y a eu des couples, mais j'aurais adoré qu'il y ait eu que des couples se forment pendant Henri VI. Et puis nous, évidemment, au plateau, on est épuisés, mais on partage avec le public cette traversée. Et à la fin, on n'arrive pas à se quitter. Moi, j'ai des souvenirs émus et inoubliables de saluts qui duraient des minutes entières, des dizaines de minutes, et qui n'arrêtaient pas. Les gens ne voulaient plus se quitter. Nous, on voulait plus quitter les gens. Enfin voilà, ça reste une grande, 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 grande aventure.
Est-ce que vous estimez que le théâtre peut être en danger? C'est un art vivant un peu fragile. Là, il n'y a pas beaucoup de scènes mises à part à Angers. Il y en a quelques-unes, mais enfin pas énormément pendant le temps de ce virus qui va aller personne ne sait quand. Est-ce qu'il y a une fragilité inquiétante là?
Il faut en prendre soin, c'est certain. Il faut, je sais que... au ministère, dans les tutelles, les partenaires publics, je sais qu'il y a un vrai soin apporté au théâtre. Même moi, perso, je crois que le théâtre, qui est passé par tant de révolutions, tant de crises, tant de guerres, tant de censures, tant de phases de l'histoire, et qui est toujours là, trouve toujours son chemin, en fait, comme l'eau. Je crois qu'il trouve toujours son chemin, et que plus en plus on sera avec des écrans entre nous, plus on aura besoin de ce rapport direct, en fait, entre vivants. Parce que c'est vraiment le seul art qui peut-être réunit deux besoins essentiels, je crois, à nos humanités. C'est d'abord, l'envie, le besoin de se faire raconter des histoires. Tous les enfants demandent des histoires à leurs parents, petits. Et puis, l'autre besoin auquel ils répondent, c'est l'envie d'être ensemble, qu'on a quand on fête une Coupe du Monde, ou quand on, dans les froids, après les attentats, par exemple, on a besoin de se rassembler avec nos semblables. Hein, voilà. Et le théâtre répond à ces deux besoins-là. Donc, à mon avis, il est immortel, il ne mourra jamais, il trouvera toujours comment s'adapter, et donc je ne suis pas inquiet pour lui. Par contre, il faut, c'est sûr, en prendre soin, des artistes, prendre soin des techniciens, ce qui a commencé à être fait, et ce qui est bien, je crois, par les politiques en place.
Comme vous êtes toujours avide d'expérience, Thomas Joly, je vous propose d'écouter ça.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, on n'a pas l'air viril.
Tout le monde, enfin j'espère tout le monde aura reconnu Starmania. C'est vous qui avez été choisi pour une prochaine version de l'opéra rock signée Michel Berger et Luc Plamondon. Bon, tout est retardé, hein, de toute façon tout est retardé. Ce sera pour septembre 21 à la Scène musicale à Paris, c'est ça?
Tout à fait, pour novembre 21.
D'accord, quel est le casting?
Ouais. Il est en cours, le casting. On était d'ailleurs en plein... Si, c'est vrai. On était en plein casting. On était parti à Montréal et on était entre Montréal et Paris pour toutes les auditions au moment où ce virus nous est tombé dessus et où tout s'est arrêté et tout a été redécalé. Donc, je peux pas vous le donner, le casting, parce qu'il n'est pas fait. Il n'est pas fini, figurez-vous.
Vous avez bien des petites pistes, des petits noms à nous donner quand même.
Ah oui, alors on a évidemment découvert des chanteurs et des chanteuses formidables, mais rien n'a été acté parce qu'on essaie de constituer une troupe avec tous les rôles, et on n'a pas encore tous les rôles, donc tant que tous les rôles n'ont pas été... vous savez, c'est un alliage, hein, ça va durer, c'est une troupe qui va partir pendant 2 ans, au moins 2 ans en tournée, en création et en tournée, donc il faut constituer vraiment le bon équilibre pour les personnages, etc. Donc tant qu'on n'a pas tous les personnages, non, on ne peut pas communiquer, on n'a même pas dit aux chanteurs ou aux chanteuses qu'ils seraient pressentis.
En une phrase, comment moderniser, comment rafraîchir Starmania?
En une phrase, Starmania est plus moderne que nous. Voilà, c'est sidérant de modernité. C'est fou d'ailleurs. C'est presque flippant. Moi, je trouve que l'œuvre soit à ce point prophétique et qu'elle continue d'interroger notre temps. Quoi, c'est un peu le Black Mirror de la comédie musicale. Hein, moi, je trouve, hein, clairement.
Pas mal la formule.
Et puis, c'était mon rêve, en fait. C'est un rêve auquel je n'osais même pas rêver. Et effectivement, il y a un an, Luc Plamondon et les ayants droit de France Gall et Michel Berger m'ont contacté pour ça. Et on attend un an de plus avant de le créer, mais c'est quand même une histoire formidable.
On va arriver aux incontournables d'Europe 1. Thomas Joly, je vous décris l'action. Nicolas Caro a passé une tête en régie du studio. Et je vous fais une accroche qui appâte. Sexe aux États-Unis, oh là là.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Thomas Joly est en ligne depuis Angers et bonjour Nicolas Caro, ici en studio
bonjour
à Paris.
Bonjour Pascal.
Alors, vos incontournables, ce matin, ce n'est pas un roman, mais c'est un livre quand même, c'est un objet qui ressemble à livre. Le dernier numéro de la revue America.
C'est facile, mais j'aime bien l'entendre, alors je me suis fait plaisir.
Moi, je vous en prie.
C'est l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lu. C'est le slogan depuis le premier numéro d'America au moment de l'élection de Donald Trump. C'est l'Amérique vue par les écrivains. Ça donne à chaque fois un petit bijou de pertinence et de beauté. Grand format avec des illustrations superbes, toujours.
En couverture, notamment un couple qui s'embrasse, ce qui ne court plus les rues. Hein, et le titre « Sex in the USA ».
Eh oui, il y a toujours un grand dossier dans America. Et là, effectivement, c'est la question du sexe en Amérique qui est une donnée essentielle pour comprendre les États-Unis. Julien Bisson est le rédacteur en chef d'America.
Ben en fait, on a voulu poursuivre l'exploration des grandes questions qui traversent la société américaine et le sexe en fait vraiment partie. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui a choisi comme fondateur mythique des puritains arrivés il y a 400 ans cette année, en 1620, à bord du Mayflower, et que cette mythologie a imprégné les rapports sexuels des Américains depuis lors, ou en tout cas, l'idée que l'Amérique se fait de la sexualité ou de la nudité. Il faut se rappeler le téton de Janet Jackson exhibé lors du Super Bowl qui avait provoqué un grand scandale. Donc les États-Unis c'est ça, mais c'est aussi le pays de la pornographie, le pays de la prostitution, et même le pays de Donald Trump, dont on apprend dans un article de Seth Greenland qu'il est apparu dans plusieurs vidéos porno soft. Alors c'est cette contradiction, c'est cette obsession pour le sexe et ses implications en termes politiques, de pouvoir, de domination, mais aussi depuis plusieurs années de libération qu'on a voulu explorer dans ce numéro d'été.
Porno soft, mais porno quand même. Hein. Ce sont ces contradictions qui rendent le pays intéressant, justement, Nicolas.
Bien entendu, à la fois hypocrite, puritain et en même temps pionnier sur la chose. Il y a un article de plus de 10 pages. Oui, c'est ça ce qui est bien avec cette revue, c'est qu'on prend le temps. 10 pages sur les présidents des États-Unis et le sexe. Kennedy, bien sûr, Clinton, of course. Je ne vous fais pas un dessin. Et puis un autre sur l'histoire du puritanisme, justement, qui est édifiant. Et ensuite, un long entretien avec Candace Bushnell, l'auteur de... Sex and the City, paru dans les années 90, adapté en série. Une série qui, mine de rien, a questionné les Américains et donc le monde sur le rapport à la sexualité et celle des femmes en particulier. Elle revient sur le succès de la série et sur comment elle a changé la manière de voir. Et ensuite, il y a une sorte de panthéon littéraire sur la question. Tous les romans qui ont choqué et ou questionné au moins l'Amérique. Carole, par exemple, de Patricia Highsmith, l'auteur du talentueux Mr. Ripley. Elle publie le roman en 52, c'est avant Mr. Ripley. C'est une histoire d'amour entre deux femmes. femme. Et elle est obligée à l'époque de prendre un pseudo pour le publier parce que son éditeur refuse. Résultat, 1 million d'exemplaires vendus. Il y a Brokeback Mountain aussi, le film d'Ang Lee qui est adapté d'une nouvelle d'Annie Proulx. Énorme succès public, mais censuré dans l'Utah, encore les contradictions. Il y a Eyes Wide Shut, Lolita, à chaque fois on revient, on analyse ces différentes œuvres.
Mais il n'y a pas que ce dossier évidemment dans America.
Non, il y a aussi la question du Covid, bien sûr, comment l'Amérique gère la crise, mal. Une nouvelle de Tennessee Williams aussi, Un tramway nommé Désir. Inédite en français la nouvelle, c'est une histoire d'amour, évidemment. Et puis, le portfolio consacré cette fois-ci à Hawaï, c'est aussi les États-Unis, Julien Bisson.
Pour les Américains, c'est un peu comme l'équivalent de nos Antilles. C'est une terre lointaine dont ils oublient parfois un peu l'existence, ou alors qu'ils aiment bien caricaturer en destination de vacances avec son lot de clichés un peu éculés. Mais en réalité, Hawaï, c'est un archipel assez fascinant, parce que c'est là que se développe une autre forme d'américanité, comme un peu comme en Alaska, dans un autre genre, dans un genre beaucoup plus froid, avec un métissage très fort des populations. À Hawaï, il y a une population très forte de Polynésiens, de Philippins, de Japonais, il y a une vie locale qui est riche en traditions, il y a un lien à la nature qui est aussi très différent de ce qu'on peut trouver sur le continent. Bref, c'est une sorte d'Amérique tropicale, qu'on avait déjà évoqué dans un précédent numéro avec un texte de John Didion, mais qu'on avait envie de montrer, loin des photos publicitaires, avec justement un portfolio d'un photographe qui est habitant de Oahu, la plus grande île de l'archipel. Et donc voilà, on a voulu montrer le véritable Hawaï, celui où par exemple est né un certain Barack Obama.
Voilà, tout ça, ouais, par exemple. Tout ça a l'air dans le nouveau numéro de la revue America. Je vous le piquerai bien, Nicolas Jarreau.
Allez, je vous le donne.
C'est vrai ?
Oui, parce que c'est vous.
Ah, oh, si c'était quelqu'un d'autre ?
Là, peut-être pas. Moi, je suis très très fier que vous soyez là, ce micro. Je vous
oh
le dis
là
en
là,
passant.
Je pense qu'on va enchaîner.
Un peu
là.
Impressionné bon, aussi.
Non. Merci Nicolas. Vous revenez avant de partir en vacances, j'espère bien.
Bien sûr, la semaine
d'accord.
Prochaine.
Super. Thomas Joly, vous êtes toujours en ligne depuis Angers. Faites passer, c'est un peu le principe ici. Est-ce que vous auriez rapidement un livre, un film, une série à nous conseiller ?
On a parlé virus, on a parlé théâtre et on vient de parler d'Amérique. Et justement, moi, il y a un super roman que je conseille qui s'appelle Station Eleven d'Emily St. John Mandel, qui retrace, c'est une dystopie hein, dans une Amérique, où après un post-virus, quoi, où le théâtre en fait continue de faire humanité. Et c'est un très très beau roman et tout à fait d'actualité.
Vous connaissez Nicolas ?
Oui, c'est superbe, gros succès. C'était il y a 2-3 ans chez Métellier, me
tout
semble.
Tout à fait, ouais.
C'est sorti en poche depuis. Et elle revient d'ailleurs cet hiver, l'auteur. Voilà. Et effectivement, c'est de cette circonstance, c'est la vie post-apocalyptique, mais avec effectivement l'art qui nous sauve.
Voilà.
Voilà,
exactement.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Merci.
Voilà, c'est une
merci
belle conclusion.
Merci Nicolas Caro. Thomas Joly, on va se dire au revoir dans un instant parce qu'il faut se dire au revoir avec élégance. À tout de suite.
D'accord, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
À partir de demain, le lancement, malgré tout, de la programmation Quai d'été à Angers, programmation théâtrale. On a parlé de la pièce de copie, La nuit de Madame Lucienne, que vous mettez en scène, Thomas Joly, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, les moments forts du reste de votre programmation.
D'animaux de George Orwell que met en scène Youssoufa Biayad. Pareil, un texte assez fort en ce moment, qui sera en plus en tournée dans tout le département. Un texte inédit de Dieudonné Nyanguna qui va mettre en scène Lamine Diarra, Les Petits Bonnets par Pascal Inervit, la chanteuse du groupe Les Ailes. Bref, tout un
alors,
tas de choses.
On vous entend pas si bien que ça là depuis qu'on a.
Ah pardon.
Voilà,
c'est mieux. Vous
voyez comme vous voulez. Ouais.
Vous avez quoi ? J'avais mon doigt sur le micro. C'est quand même ballot. Est-ce que vous avez entendu La Ferme des Animaux de George Orwell,
oui,
par exemple,
entendu, qui va, ouais.
Voilà.
Qui tombe bien.
Le texte inédit de Dieudonné Nyanguna aussi, qu'un auteur que j'apprécie très fortement et qui sera mis en scène par Lamine Diarra. Il y aura un Roméo et Juliette, un Oedipe Roi. Du théâtre, du contemporain, du classique, des choses nouvelles, des choses venues d'ici, des choses venues d'ailleurs. Ok, dans tout le département. Bref, plus de 100 représentations parce qu'on a été fermé plus de 100 jours. Alors, pour compenser, plus de 100 représentations un peu partout.
Ça va, votre morale est remontée?
Complètement, et elle sera encore plus remontée demain, parce que maintenant vraiment avec, c'est comme si on avait préparé une grande fête et que maintenant il faut le public quoi, il faut les inviter de la fête. Et j'ai très très hâte de les voir revenir au quai.
Ouais, vous doutez sur le fait que le public vienne, comment vont les réservations, parce qu'il y a quand même une appréhension, faut dire ce qui est.
Ouais, elle est complètement entendable en plus. Et non, les réservations pour le début des festivités sont bonnes. Et puis bah voilà, après il va falloir que ça prenne, il va falloir qu'on rassure, il va falloir aussi que on redonne le chemin vers le théâtre, quoi. On fasse revenir les gens doucement. Et c'est ce que je souhaite. En tout cas, tout est prêt pour eux, voilà.
Et les contraintes.
Tout est prêt pour les accueillir dans les meilleures conditions.
Et les contraintes voilà. Ont fini par vous plaire.
On est tout le temps avec la contrainte, on trouve toute notre liberté dans la contrainte, c'est un peu éculé de dire ça, mais c'est vrai, c'est vrai.
Merci beaucoup Thomas Joly d'avoir été
merci à vous infiniment.
En
merci.
Ligne avec nous depuis Angers, et puis ne répondez pas, mais pour la saison théâtrale et pour la première de ce soir, on vous dit merde. Comme chaque jour dans Culture Média, pendant tout l'été, on découvre le début des romans de la rentrée. Ça s'appelle Première Page. Et ce matin, la première page du prochain roman de Faiz Aghen, La Discrétion, qui sortira le 27 août chez Plon. Commune d'Aubervilliers, département de Seine-Saint-Denis, 93 300, France, 2018. Yamina a bientôt 70 ans. Elle les aura en novembre prochain, soit le 10, soit le 19. Yamina est née un jour ou l'autre. Sur les papiers algériens, elle est du 19, mais sur sa carte de résidence française délivrée en Seine-Saint-Denis, il est inscrit « Née le 10 novembre 1949 à Smir d'Afouaga, Algérie ». À qui se fier ? Au moins, elle n'a pas une date présumée. Elle a échappé au fameux 1er janvier, attribués aux indigènes par défaut. Les usagers n'hésitent pas à lui céder leur place dans le 173, le bus qu'elle prend chaque samedi matin, station Fort d'Aubervilliers, en face de la poste. Elle va faire le marché de la mairie et achète toutes sortes de choses inutiles. La plupart du temps, ce sont des objets en plastique et des gadgets ménagers révolutionnaires, dont les camelots. Ah bah oui, c'est la règle, hein. Comme on ne lit que la première page, on s'arrête s'il le faut au milieu d'une phrase. Faiz Aghen, La Discrétion, attendue le 27 août chez Plon. Culture Média d'été et même Culture Média férié, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec l'expo Christo et Jeanne-Claude à Beaubourg et avec l'animateur Cyril Ferraud. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Passez une bonne journée, je ne vous embrasse pas.